Chapitre 37. Au secours. Anna Nina marche dans les pas de Gustave, à quelques barreaux d'échelle de lui. Elle affiche une belle fierté de réaliser ce grand projet et se réjouit de l'endroit, de l'arbre, des plants, du temps qu'elle pourra y passer ensuite. L'homme n'a rien dit depuis qu'ils sont repartis de la maison. Il digère le repas, une chose à la fois. Mine de rien, tous ses efforts ne sont plus habituels pour lui, et il se sent plus fatigué qu'à l'accoutumée depuis quelque temps. Peut-être devrait-il un peu lever le pied. Mais c'est maintenant ou jamais. Il se sent vivant de fabriquer, de construire, de bricoler, de créer et de partager avec cette gamine qui déborde d'énergie et d'émotion. D'ailleurs, elle choisit ce moment pour rompre le silence.
Ça me fait de la peine pour Gaël.
Quoi donc?
Qu'il ne soit pas heureux de se sentir gros?
C'est sa tristesse qui l'aidera à trouver la force dont il aura besoin pour perdre ses kilos. Donc, elle lui sera bien utile.
Oui, mais ça va prendre des mois.
C'est la vie.
Et il est encore jeune.
Mais dis-moi, ça lui sert à quoi que tu sois triste pour lui?
Je ne sais pas, répond Anna Nina hésitante, avant d'admettre que ça ne sert à rien.
Et à toi, ça te sert à quoi d'être triste pour lui?
Renchérit l'homme. À rien non plus.
Alors pourquoi tu le fais?
Parce que ça vient comme ça, je ne décide pas.
Alors tu vas décider à partir d'aujourd'hui de ne pas être triste pour le malheur des autres. Chacun a bien assez à s'occuper de lui pour ne pas endosser en plus les soucis des autres, tu ne crois pas?
C'est égoïste, non?
Pas du tout. Être égoïste, c'est ne penser qu'à soi et pas aux autres. Mais on peut penser aux autres et être là pour eux en restant positif et joyeux, même s'ils sont tristes. Surtout s'ils sont tristes. D'ailleurs, c'est ton métier dans notre grand plan d'action, Gaël. Le faire rire, non?
Oui. Et toi, tu fais ton métier?
De donneur de coups de pied au derrière? Non, mais je m'échauffe pour être opérationnel au cas où il en aurait besoin. Je suis d'astreinte, comme on dit.
Ça veut dire quoi, être d'astreinte?
Ça veut dire qu'on ne fait pas, mais qu'on se tient prêt.
Alors moi, je suis d'astreinte dans la cour pour défendre mes copines avec ma prise si des garçons les embêtent?
En quelque sorte,
répond Gustave en riant. L'ouvrage avance doucement mais sûrement durant les 2 heures qui suivent leur retour au tilleul. Les premières planches sont posées, fixées entre elles, arrimées à l'arbre à l'aide de cordes et de morceaux de chambre à air. Anna Nina peut faire le tour du tronc en marchant sans se tenir. Elle regarde Gustave avec des merci dans les yeux. Il y a encore beaucoup de travail pour finir ce premier palier, puis réaliser le deuxième et enfin le troisième, plus complexe, puisqu'il comportera un toit. Mais peu importe. C'est aussi dans sa réalisation que l'ouvrage prend toute sa valeur. Alors qu'il commence à fixer un nouveau rang de planches, le vieil homme s'inquiète des nuages noirs qui apparaissent au loin, au-dessus des Vosges. Il enjoint à la petite d'empiler rapidement le matériel et ramasse ses outils qu'il range à la hâte dans le gros sac en toile. En remontant sur le chemin, le ciel est gris sombre au-dessus du Mont-Saint-Jean.
On ne va pas traîner, je crois qu'un gros orage arrive, et il arrive vite. Allez, grimpe dans la charrette, on file.
Gustave n'aime pas l'orage, surtout au milieu des grands arbres, en montagne. Il oublie ses articulations et marche d'un pas rapide, en dirigeant la carriole avec précision pour éviter les trous dans le chemin et les cailloux saillants. Anna Nina ne dit rien, elle regarde le ciel avec inquiétude. Elle non plus n'aime pas l'orage. Ils étaient toujours très impressionnants à vivre dans la roulotte, même blottis contre son père. Le seul orage qu'elle a aimé, c'est celui qui les a déposés ici. En arrivant un peu au-dessus du village, alors que les premières gouttes énormes commencent à tomber, elle est la première à voir le garçon, sous les arbres, assis sur le banc en retrait de la route.
« Arrête-toi !»
crie-t-elle à Gustave en désignant le banc du doigt.
« Qu'est-ce que tu fais là, gamin ?
demande l'homme, surpris par la présence de ce garçon sous la verse débutante.
« Faut pas rester ! Regarde là-haut, au-dessus du mont, la pluie qui nous attend. Grimpe dans la charrette, tu viendras à l'abri chez nous. »
Le garçon s'exécute sans un mot. Les éclairs ne frappent pas encore, mais la pluie s'abat violemment, ne leur laissant aucune chance d'arriver sec à destination. Par chance, la porte de la grange est restée ouverte, et Gustave s'y engouffre avec le véhicule à deux roues et autant d'enfants à son bord. Valentine et Éric, à la fenêtre ouverte sur la cour, sont rassurés de les savoir rentrer, un peu étonnés de voir ce garçon sorti de nulle part.
« Tout va bien !»
leur crie Gustave à travers la pluie qui tombe fort.
« Je les garde ici, ils n'auront qu'à jouer au grenier en attendant que ça passe. »
« Tu veux des vêtements de rechange pour eux ?»
répond Valentine en poussant sa voix.
« Je me débrouille. Va fermer le Vélux de ta chambre »
ajoute-t-il avant de disparaître derrière la porte. Valentine repousse les battants de la fenêtre et file fermer l'ouverture dans le toit. C'est déjà un peu tard. Son couvre-lit est mouillé par endroits. Elle n'a pas vu qu'Éric l'avait suivi et sursaute en se retournant. Il tourne la clé dans la serrure et soulève son t-shirt, à la recherche de ses seins qu'il saisit sans hésitation, avant de la basculer sur le lit. Ils aiment aussi brûler les étapes quand la situation est incongrue, imprévisible et urgente.
« Bon, les enfants, j'espère que vos slips sont indemnes, »
proclame Gustave.
« Parce que de ce côté-là, je ne vais pas pouvoir vous aider. Viens avec moi, petit. » Au fait, comment tu t'appelles ?
Sébastien.
Tiens, prends ça,
dit-il en lui tendant un Marcel blanc. Je te laisse te changer dans ma chambre. Puis il montre la salle de bain à la petite en lui donnant une de ses chemises à carreaux. Il attend de les avoir installées à la table de la cuisine avec un chocolat chaud et des tartines pour se défaire de ses vêtements mouillés. Les deux enfants mangent en silence en se regardant discrètement. Le Marcel qu'a enfilé le garçon lui descend à mi-cuisse et le col s'arrête juste au-dessus du nombril. Quant à Anna-Nina, la chemisette rouge et blanc lui fait office de robe.
« Vous êtes beaux comme ça tous les deux !»
lance Gustave en s'asseyant en bout de table.
« Tu viens d'où, Sébastien ? On ne t'a jamais vu ici. »
« On a déménagé il y a un peu plus d'un mois avec mon père, dans une maison du village. »
« Ta mère n'est pas là ?»«
Non, elle habite à Strasbourg. Ils ont divorcé. Je passe la semaine chez elle à cause de l'école et le week-end ici. »«
Il fait quoi, ton père ?»«
Des travaux forestiers. »«
Tu veux l'appeler ? Il ne va pas s'inquiéter de ne pas te voir revenir avec l'orage ? Je crois qu'il y en a pour un moment. C'était bien gris sur toutes les Vosges. »«
Je ne veux pas vous embêter. »
« Mais tu ne m'embêtes pas, hein, Anna-Nina, qui ne nous embête pas. Allez donc au grenier, il y a une caisse avec des vieux jouets, tout de suite à droite, au bout des marches. Mais appelle d'abord ton père, le téléphone est là-bas, regarde. »
Le garçon s'exécute. L'appel dure 10 secondes, juste le temps de dire qu'il est à l'abri, qu'il rentrera plus tard. Puis les enfants finissent leur bol de chocolat, et Anna-Nina monte la première l'escalier que lui a indiqué Gustave. On entend la pluie marteler le toit et les lucarnes ne laissent entrer que très peu de lumière. Elle allume le plafonnier en arrivant en haut et vérifie que Sébastien a bien suivi. Ils découvrent alors un espace fait d'étagères, de coffres et de nombreuses formes recouvertes d'un drap blanc. Des toiles d'araignée occupent quelques angles, mais le lieu est assez propre.
« Tu n'as pas peur des araignées ?»
demande le garçon en se frottant le bras pour se débarrasser de la toile qu'il vient de rencontrer.
« Non, j'ai l'habitude. Et toi ?»«
Moi, un peu. »«
C'est ton arrière-grand-père ?»«
Non. »«
Et à la fenêtre, c'était tes parents ?»«
Juste mon père. »«
Il est divorcé ?»«
Non. »« Ma maman est morte quand je suis né. » »«
Et la dame qu'on a vue, c'est ta nouvelle maman ?»«
Je crois, oui. »«
Tu crois ?»
Je ne sais pas s'ils s'aiment, mon papa et elle. J'aimerais bien, mais je ne suis pas sûr. Et je ne sais pas s'ils doivent s'aimer pour qu'elle devienne ma nouvelle maman.
Ben, moi, ils ne s'aiment plus. Et c'est quand même mes parents.
Oui,
mais c'est tes vrais parents.
Ça change rien.
Ils ne m'aiment pas quand même.
Sébastien a dit cela en se mettant à genoux pour ouvrir la caisse à jouets que leur a indiqué Gustave. Il se décale légèrement sur le plancher en bois gris pour laisser une place à la fillette. Celle-ci fouille entre les cubes de bois et les petites voitures, à la recherche d'autres trésors encore plus anciens.
« Pourquoi tu dis qu'ils ne t'aiment pas ?»«
Parce que mon père passe son temps à son travail. Il ne s'occupe pas beaucoup de moi le week-end. » Il n'était pas comme ça avant que maman parte.
Il est triste, mais moi, j'y suis pour rien.
Et ta mère?
Ma mère, elle vient d'avoir un bébé avec son nouveau copain. Il n'y a que ma petite sœur qui compte. Et mon beau-père passe son temps à dire que je suis nul.
C'est triste.
C'est comme ça.
Et ton père, il n'a pas une copine?
Non. Enfin, je crois pas.
Un jour, je l'ai entendu dire au téléphone à un ami à lui que les femmes, c'était fini, qu'il n'avait pas envie de se faire jeter de nouveau.
Tu pourras venir ici si tu veux.
Nous, on s'occupera de toi.
T'as vu le vieux mécano? Il manque des pièces. Mais je crois que j'en ai vu au fond de la caisse. Tu veux qu'on le répare?
Oui, mais on n'a pas les plans.
On n'aura qu'à inventer. Et sinon, on demandera à Gustave.
Éric et Valentine se sont rhabillés aussi vite qu'ils se sont dénudés. L'après-midi, des enfants de l'autre côté de la cour, Gaël susceptible d'arriver à tout moment. Chaque seconde compte. Cela rend ce genre de moment volé d'autant plus excitant, et le plaisir rapide. Éric entr'ouvre légèrement la porte pour vérifier que personne ne se trouve dans le couloir. Il annonce à Valentine qu'il fait un saut aux chevaux pour vérifier que l'orage ne les a pas trop effrayés. Pendant ce temps, Valentine pétrira la pâte à brioche une dernière fois. Elle finit de mettre la pâte dans le moule, les doigts encore collants, quand Éric revient. La vérification a été rapide. Tout va bien, même s'il n'est pas très agréable de flâner dans les champs boueux. Le téléphone de Valentine annonce alors un message. « Tu peux regarder ?»«
Rien d'intime. » ?»«
Je n'ai rien à te cacher. » »«
Ça doit être Gaël. » »«
En effet, » annonce Éric en saisissant le téléphone. Il appelle au secours.
« Au secours ?»«
C'est juste écrit « au secours ». »« J'y vais. » »« J'arrive. Je me lave les mains et je te rejoins. »
Éric ne connaît pas suffisamment Gaël pour savoir interpréter ce genre de message. Cela peut tout autant signifier un appel du cœur, parce qu'il n'a pas le moral, qu'une urgence médicale. Il court donc en direction du gîte en espérant que ce n'est pas la deuxième option. Peut-être a-t-il trop tiré sur la corde cette semaine. Peut-être est-il en train de faire un malaise cardiaque. Quand il entre dans la cuisine, il découvre Gaël assis à la table, silencieux, une tablette de chocolat posée devant lui. Il ne lève même pas la tête à l'arrivée d'Éric. Celui-ci est évidemment soulagé de le voir bien portant et réfléchit rapidement à la façon de régler la situation. C'est un appel au secours d'envie, de manque, de ras-le-bol, de frustration. Il file dans la salle de bain, saisit le sèche-cheveux, retourne dans la cuisine, cette fois-ci en faisant une entrée fracassante. Et hurle à Gaël en braquant sur lui l'appareil.
Haut les mains! Pas un geste!
L'homme en détresse lui lance un regard vide, sans montrer la moindre réaction à ses ordres.
Haut les mains! Deuxième sommation!
Gaël finit par lever mollement les bras et les yeux au ciel, vaguement agacé. Éric s'approche avec précaution sans quitter Gaël des yeux et tend la main vers la tablette de chocolat, comme si le geste présentait un risque énorme. Il l'attrape du bout des doigts et la fait glisser vers lui en silence.
quand elle est suffisamment proche, il la saisit fermement et pose délicatement le sèche-cheveux sur la table de la cuisine.
« Respirez, vous êtes hors de danger »,
ajoute-t-il en quittant la pièce. Quand Valentine arrive, elle trouve Eric sur le perron en train de croquer dans le chocolat, un sourire satisfait aux lèvres.
« Qu'est-ce que tu fais ?»«
Je désamorce la bombe. Par contre, tu es attendu pour activer la cellule psychologique.
Chacun ses compétences. » »«
Que s'est-il passé ?»«
Une tentation trop forte, je suppose. » »«
Je remonte. Si jamais les enfants veulent sortir du grenier. Et puis il faut que je vérifie qui est ce garçon qui tourne autour de ma fille. »